Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard.
Et notre question, notre débat autour du Brexit ce soir, vous allez intervenir au 39-21, je l'espère bien sûr. Pourquoi les Britanniques veulent-ils sortir à tout prix de l'Union Européenne? Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Isabelle Horry, qui est notre correspondante Europe 1 à Bruxelles. Nous sommes en studio ici avec John Henley, qui est correspondant Europe du Guardian, le quotidien britannique. On dit bien Guardian et pas Guardian, comme disent beaucoup de Français. John Henley et Hugo Travers, comme tous les mardis. Vous connaissez sa chaîne Hugo Décrypte désormais, avec notamment une vidéo sur le Brexit publiée aujourd'hui.
C'est vrai.
On est bien d'accord, Hugo. Benjamin Muller est avec vous également.
Bonsoir Mathieu, bonsoir.
Ça va, Benjamin?
Ça va très bien.
Comme chaque jour, on voit avec vous comment les médias ont traité un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, on parle des deux nouveaux visages qui marquent ces élections européennes, Raphaël Glucksmann et François-Xavier Bellamy.
Glucksmann, tête de liste du PS Place Publique, Bellamy des Républicains, deux candidats que beaucoup de Français découvrent. Ses anciens en interview. Raphaël Glucksmann était ce matin sur Europe 1. Question, alors, dans les sondages, c'est pas encore la folie ici?
Bah attendez, la campagne n'a pas commencé, on n'a pas, toujours pas parlé d'Europe, donc je pensais pas que sur mon nom, tout d'un coup, la terre entière allait se retourner et la mer rouge s'ouvrir.
Voilà, au moins il est assez lucide et dans les émissions de débat, on ne parie pas vraiment sur le fait qu'il va progresser. Patrick Poivre d'Arvor sur RTL.
Et quand on voit ce qui est devenu Patrick. Le désert de la gauche, quand même, on a vu les scores et de Benoît Hamon. Et pour l'instant, des sondages aux européennes, à mon avis, il est pour très très longtemps déserté.
Voilà, ne jamais oublier qu'Hollande, un an avant d'être élu, n'était qu'à 3% dans les sondages. Le vieux sage que je suis peut vous le rappeler. Oui. Hollande, justement, était ce matin sur France Inter. On l'a donc interrogé sur Glucksmann, la tête de liste de son parti.
La tête de liste est confiée à Raphaël Glucksmann. Est-ce que c'est un bon choix?
Moi, je ne m'intéresse plus à la vie des partis et du Parti Socialiste.
Oh, la magnifique langue de bois, vraiment, il ne s'intéresse plus du tout à ça, c'est plus de son niveau. Bon, qu'on se rassure, deux secondes après, il va bien sûr s'y re-intéresser.
Vous allez voter aux élections européennes?
Je vote à toutes les élections.
Et alors pour qui, là?
Je voterai pour les socialistes, je vote toujours pour les socialistes.
Ah bah ça c'est bien, ça doit faire plaisir à Glucksmann, non?
Je voterai pour les socialistes, je vote toujours pour les socialistes. Faut-il encore qu'il y en ait?
Et voilà, le petit tacle glissé. Il est fort, ce François Hollande, il est fort. Mais à propos des attaques en général, Glucksmann l'assure, on l'avait prévenu.
On m'avait prévenu que la politique, c'était une entrée dans l'atmosphère un peu tumultueuse et turbulente. Mais
et alors? C'est
bah comment? Oui, je confirme, je vous jure.
Ah, il n'est pas déçu, tant mieux pour lui. Alors à droite, ça va un peu mieux pour le candidat LR.
François-Xavier Bellamy. La nouvelle star de la droite Cato.
Ouais, la nouvelle star pour Thierry Ardisson. C'est vrai, il donne un peu le sourire à la droite, même si bon, Bellamy progresse dans les sondages. Mais enfin, à croire Édouard Le Cerf, votre invité Mathieu il y a quelques jours, faut pas non plus s'enflammer.
Juste derrière, si on veut rentrer un peu dans le détail, eh bien vous avez une seconde division qui est dominée, mais ça n'est que la seconde division, par la liste Les Républicains.
Voilà, François-Xavier Bellamy, c'est un peu le FC Metz de la politique. Pour les supporters du FC Metz, ça fera plaisir. Allez, une anecdote qui montre que pour Bellamy, c'est pas encore gagné. Anecdote racontée telle quelle sur France Inter par Édouard Baird, pas hyper physionomiste.
Il y a un type très sympathique qui vient vers moi qui me dit je vous aime beaucoup. On est des putes dans ce métier, on est ravis. Quelqu'un qui nous aime, on l'aime tout de suite. Et en fait, j'ai fait une photo et après, je lui dis ne lâchez rien. Je me dis faut ce que je dis comme ça. Et c'était Bellamy, le chef des Républicains. Alors, non mais.
Voilà, c'est pas simple de faire de la politique quand on vous reconnaît pas encore.
Merci.
Ça viendra, j'imagine.
Merci beaucoup, Benjamin Muller. Notre débat sur le Brexit, c'est à suivre.
Europe 1.
Débat et il y a ce côté aussi. Analyse. On va essayer de comprendre pourquoi les Britanniques veulent-ils à tout prix sortir de l'Union Européenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
Jusqu'à 20h avec vous Mathieu Béliard sur Europe 1, le youtubeur Hugo Travers que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte et qui a mis en ligne ce matin la vidéo Brexit, la vidéo à voir si vous ne comprenez rien.
Ça va faire beaucoup de vues, ça, c'est sûr.
En duplex, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
Bonsoir Isabelle.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Elle est présente et John Henley, correspondant Europe du quotidien britannique Le Guardian.
Le Guardian, exactement. John Henley, d'abord, une question d'actualité très simplement. Theresa May qui veut réclamer un nouveau report du Brexit à l'Union Européenne, qui pourrait négocier avec les travaillistes. Vous me disiez hors antenne qu'elle semble lâcher du terrain.
Oui, bah en fait, elle fait ce qu'elle aurait dû faire il y a 2 ans et demi, c'est-à-dire s'asseoir avec l'opposition et essayer de trouver un projet de Brexit susceptible à avoir une majorité dans la Chambre des communes. Parce que là, pour l'instant, si on est dans l'impasse où on se trouve aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de majorité parmi les députés britanniques pour une définition du Brexit. Et voilà, sans cela, évidemment, on ne peut pas avancer.
Il faut travailler avec l'opposition pour trouver une solution. Notre question ce soir, pourquoi les Britanniques veulent-ils à tout prix sortir de l'Union européenne? Question assez... ouverte, c'est difficile. Isabelle Horry, est-ce que vous avez un début de réponse?
Ben, la réponse que je peux apporter, c'est qu'est-ce qui a déclenché le référendum et qu'est-ce que les Britanniques avaient comme peur à l'époque. Et le grand sujet, c'était l'immigration. Ce dont il faut se souvenir, c'est que les Britanniques ont les premiers ouvert tout grand les portes de leur marché du travail aux citoyens des nouveaux pays membres de l'Union européenne, c'est-à-dire notamment les pays de l'Est. Les autres pays, comme la France, se sont dit on va prendre un peu de temps, on va le faire progressivement. Et en 2004, les Britanniques, eux, ils ont tout ouvert en grand. Et je regardais les chiffres cet après-midi, ils avaient en 2004 167 000 résidents des pays de l'Est et en 2017, ils en avaient 1,5 million. Et ça s'est passé très très mal en Grande-Bretagne. Ça a vraiment déclenché de la peur, de l'inquiétude. Les gens avaient peur de perdre leur travail. Ils voyaient beaucoup d'immigrés. Et c'était la principale revendication, ce qui a déclenché en fait l'envie de sortir de l'Union européenne parce qu'ils étaient obligés d'accepter cette migration intra-européenne.
On parle d'un sujet, l'immigration, et on découvre qu'en l'occurrence, voter pour le Brexit, ça a déclenché tout un tas de négociations, de complications en cascade. J'ai appris il y a 2 minutes qu'Hugo Travers est franco-britannique. je ne le savais pas. Anglais de père, donc.
Un père britannique, une mère française, et donc forcément, ça m'impacte directement. Mais c'est drôle parce que c'est, au-delà de mon cas précis, c'est évidemment une question qui impacte beaucoup de personnes. Et moi, je m'étais intéressé notamment pas mal à la façon dont cette campagne a été menée sur le Brexit. Et autant là, les éléments que je vais dire, on ne peut pas savoir si ils ont influé à ce point dans la campagne et si jamais ils ont pu renverser la campagne et l'issue du vote, mais il y a quand même des éléments sur la façon dont la campagne a été menée. C'était une des premières campagnes au final à l'époque où la question des fausses informations était aussi présente. Et on parle souvent, je prends l'exemple de Cambridge Analytica. On parle souvent de cette entreprise en se disant voilà, c'est Donald Trump, c'est l'élection de Trump. Mais Cambridge Analytica, et c'est un des anciens directeurs de recherche de Cambridge Analytica qui le dit lui-même, a aussi joué un rôle important dans la campagne sur le Brexit. Et il me semble que c'est en plus le Guardian qui l'a révélé. Donc c'est quand même un élément qui est assez important à garder en tête. La question aussi de ces fausses informations, est-ce que ça fait basculer le vote? On peut pas le dire, de toute façon, ce serait faire de la fiction que t'imaginer ça. Mais c'est quand même une dimension importante, il peut y avoir des leçons aussi à tirer de tout ça.
C'est parti d'un mensonge.
En partie, oui. C'est-à-dire que, là, dans le cas de Cambridge Analytica, c'est sûr, mais plus fondamentalement que ça, ce que les Brexiteurs ont promis, le genre de Brexit qu'ils ont promis, en fait, n'existe pas. Eux, ils ont dit, en gros, il est tout à fait possible de quitter l'Union européenne tout en gardant tous les avantages. Et ce n'est pas le cas. Et donc voilà, ils ont promis la lune, et là on est en ce moment, ce qu'on vit, ce chaos qu'on vit à Londres en ce moment, c'est la collision entre la réalité et la fantaisie d'un Brexit totalement irréaliste.
19h36.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1. Pourquoi les Britanniques veulent-ils sortir à tout prix de l'Union européenne? Le débat qui continue. On revient dans quelques secondes.
Jusqu'à 20h avec vous, Mathieu Béliard, sur Europe 1 en duplex. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. John Henley, correspondant Europe du quotidien britannique Le Guardian. Et Hugo Travers, youtubeur que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte.
Avec Theresa May qui, ce soir, annonce vouloir négocier un nouveau report du Brexit, le plus court possible, dit-elle. John Henley, il y a quand même ça d'ailleurs, dans la démarche de Theresa May, des élus britanniques, un respect du scrutin. On respecte ce que le peuple britannique a exprimé en 2016.
Totalement. C'est pour ça qu'elle n'a vraiment pas envie d'organiser un deuxième référendum. Il y a de très bons arguments, hein, parce que, comme on vient de dire, la campagne était en quelque sorte faussée, basée sur des mensonges. Mais il faut dire aussi que, comme vous l'avez vécu en France, ce n'est pas très bien pour la démocratie si on demande leur avis au peuple, et après, on leur dit « Désolé, vous avez fait la mauvaise décision, on va l'ignorer. »
Hugo Travers.
Y compris d'ailleurs côté français, juste pour l'anecdote, moi j'ai publié, comme j'ai dit ce matin, une vidéo sur le Brexit, et à la fin de la vidéo, j'ai demandé aux gens qui regardent, donc aux Français qui regardent cette vidéo, aux jeunes Français, « Est-ce que vous pensez qu'il faudrait refaire un référendum ?» Et beaucoup de jeunes, c'était assez étonnant, ont dit « Non, il ne faut pas refaire un référendum, les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union Européenne, et maintenant il faut l'assumer. » Donc c'est aussi du côté français quelque chose qui revient assez souvent, il y a eu un vote, il faut respecter ce vote, et maintenant faut le faire de la meilleure des façons.
Isabelle Horry, à Bruxelles. Isabelle, il faut aussi quand même rappeler, parce qu'on insiste sur la politique britannique, que pour ce qui est de l'Union européenne, les Anglais ont toujours eu un pied dehors, un pied dedans, comme le veut l'expression.
Oui, c'est vrai. C'est une expression de Jean-Louis Bourlange. C'est vrai que Alors au-delà de cette campagne qui sans doute s'est faite sur des bases faussées, c'est vrai qu'il y a une responsabilité à la fois des politiques et des médias britanniques sur ce qui a pu être dit sur l'Union européenne. Je trouve que c'est quand même pas un hasard que ça soit dans ce pays-là, que ça soit ce pays-là qui sorte, parce que ce pays a toujours eu une position très spéciale dans l'Union européenne. D'abord, il avait envie que l'Europe, ce soit juste un grand marché où on puisse vendre et échanger des marchandises. Et l'Europe est devenue peu à peu, au fil des traités européens, à partir des années 90, une union politique. Et ça, c'était quelque chose que les Britanniques n'aimaient pas. Alors, ils ont demandé à ne pas être dans certaines politiques. Par exemple, on le sait tous, ils n'ont pas l'euro comme monnaie. Et ils ne sont pas dans la zone Schengen non plus. Et donc, ils ont toujours eu une position à part. Et ce que tout le monde pensait, c'était que cette position à part, elle allait leur convenir, puisqu'ils avaient vraiment, ils avaient même un chèque de rabais. Ils payaient même moins cher que les autres pour le budget européen. Et c'est vrai que même ça ne leur a pas suffi.
John Henley, finalement, les Anglais avaient tout ce dont ils pouvaient rêver.
Comme ils avaient le meilleur deal possible, hein, vraiment le meilleur deal possible. Mais ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Isabelle sur le poids de l'immigration, c'est vrai que pour beaucoup d'Anglais qui ont voté pour le Brexit, l'immigration était très importante. Mais pour ceux qui ont rêvé, qui ont mené la campagne pour le Brexit, il y avait quelque chose d'autre, une sorte d'idée en Grande-Bretagne. Parce qu'on a beaucoup parlé, entendu parler parmi les Brexiteurs du rôle de la Grande-Bretagne dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, de l'Empire britannique. Et il y a une sorte d'esprit d'exceptionnalisme britannique qui oblige les Brexiteurs à dire ben non, mais nous, on a été un très grand pays, une vraie puissance. Puis on l'a
qui ne peut
été,
pas se
une
fondre.
Vraie puissance mondiale. Il faut vraiment qu'on s'échappe à cette Europe qui nous limite, qui nous contraint.
Isabelle, les Britanniques qui ne voulaient pas être fondus en fait dans 27 autres pays parmi ces 28-là, la question de la
Là, on n'a
souveraineté.
Pas la même. Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas la même histoire, effectivement. C'est-à-dire que les pays du continent européen, et par exemple la France, on a perdu la guerre. Et donc, c'est une expérience que les Anglais n'ont pas. Donc, nous, on a cette expérience d'humilité, d'avoir perdu la guerre, d'avoir vu les pays ravagés par la guerre. Et eux ont ce sentiment que personne ne les a jamais conquis. Et ça, c'est très fort. Et du coup, c'est vrai que cette question de la souveraineté, elle a aussi été très présente. Ce qui est beaucoup critiqué en Angleterre, c'est la Cour européenne de justice, c'est-à-dire les juges étrangers qui finalement peuvent imposer quelque chose au Parlement britannique, sont au-dessus des lois britanniques. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas bien, qui est vraiment aussi a été à l'origine de ce sursaut un peu nationaliste, si on peut dire.
Cela dit, c'est un vrai débat, c'est un autre débat, mais c'est une vraie question à poser que le fonctionnement d'une démocratie de 500 millions de citoyens, hein, sur ces questions de souveraineté. C'est une autre discussion, en l'occurrence. Hugo Travers.
Non, mais il y a encore un exemple sur la question de la souveraineté, c'est effectivement un sentiment qu'on a pu qui revenait assez souvent de on donne de l'argent à l'Union européenne et on voit pas ce qu'il y a en retour, et Nigel Farage avait notamment sorti cet argument assez choc et qui avait beaucoup circulé, qui s'avérait être faux tant le calcul était assez loufoque, qui était l'idée de dire chaque semaine on donne 350 millions de livres à l'Union européenne, maintenant on va les reprendre et on va les verser à la sécurité sociale britannique, ce qui était un calcul qui était complètement bidon, qui a été démonté à de nombreuses reprises, mais qui a beaucoup circulé. Donc cette impression de finalement donner de l'argent et de ne pas avoir en retour, ça participe aussi à ce sentiment de ne pas avoir assez de souveraineté.
19h45.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 dans quelques secondes. Dernier tour de table sur ce débat autour du Brexit. On essaye de comprendre pourquoi les Britanniques veulent à tout prix sortir de l'Union européenne. A tout de suite. N'hésitez pas à composer le 3921.
Sur Europe 1, Mathieu Béliard et vos invités, le youtubeur Hugo Travers, que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte. Et depuis ce matin, vous regardez Brexit, la vidéo, à voir si vous ne comprenez rien. En duplex, Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles, et John Henley, correspondant Europe du quotidien britannique Le Guardian.
John Henley, nous parlions de l'immigration, élément déclencheur. Ensuite, dans le vote, les Britanniques ont-ils mesuré l'impact de ce vote? Aujourd'hui encore, du côté de l'Irlande, on dit qu'on ne veut pas devenir la voie d'entrée détournée vers le marché européen en cas de no deal. Il y a la question écossaise. Il y a beaucoup de questions en suspens derrière ce Brexit.
Ah bah complètement. Mais l'Irlande surtout, je pense que l'Irlande, ça, c'est la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui évidemment, donc c'est la République République qui va rester membre de l'Europe, l'Irlande du Nord qui fait partie du Royaume-Uni, donc qui va partir de l'Europe. Et c'est là vraiment où se concrétise le problème de ce Brexit non réfléchi. Ceux qui ont mené campagne pour le Brexit, ils n'ont vraiment pas réfléchi sur les conséquences de ce qu'ils voulaient. Il était évident, dès qu'on dit qu'on veut partir du marché unique et de l'union douanière, etc., qu'il y allait avoir besoin d'une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Or, c'est cette frontière-là qui, pendant 20 ans, a été la scène a provoqué quelques 3000 morts, hein, pendant la guerre civile qui opposait l'Irlande et l'Irlande du Nord.
On l'a parfois oublié, Hugo Travers.
Il y a effectivement la question de l'accord de paix de 1998 qui se retrouve fragilisé. Et puis il y a aussi simplement au quotidien, pour les Irlandais, des questions. On parle de 30 000 personnes qui chaque jour franchissent la frontière. Et il y a aussi un autre chiffre qui est qu'en 2016, l'Irlande du Nord exportait 31% de ses produits en Irlande. Il y a aussi des liens économiques qui vont être remis en cause par ce Brexit. Et c'est là aussi toute la question avec cet accord.
Mais John Henley, on parlait de l'Irlande et évidemment c'est essentiel et c'est un point de blocage. Mais je me souviens, il y a quelques années, les Écossais ont voté pour rester sous la couronne britannique. Aujourd'hui, on voit une Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, nationaliste, qui est plutôt discrète, qui attend de voir dans quel sens le vent va tourner, mais les Écossais risquent de partir aussi.
Et ils pouvaient très bien partir. L'Écosse a voté d'abord massivement pour rester. Donc, ils n'ont pas voté avec les Anglais dans le Brexit. Et c'est clair que l'Écosse s'est toujours sentie un pays beaucoup plus européen. Et d'ailleurs, il y avait un discours super émouvant d'un député européen à Bruxelles la semaine dernière qui a dit que l'Écosse, c'est un pays profondément européen. Là, on est obligé de partir parce qu'on fait partie du Royaume-Uni et le Royaume-Uni s'en va. Mais à Bruxelles, il a dit, s'il vous plaît, laissez allumer une petite lumière pour qu'un jour, on peut retrouver notre chemin chez nous.
Isabelle Horry, cette question, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à Bruxelles, notre correspondante à Bruxelles, et qu'on avait besoin de vous dans ce débat-là. Dans les négociations qui ont eu lieu, il y a quand même une idée qu'il ne faut pas oublier, que ce soit pour Michel Barnier ou pour tout simplement tous les membres de l'Union européenne. Sans dire qu'on a voulu sanctionner l'Angleterre ou faire un exemple, on a peur, en tout cas dans certains pays, d'une contagion.
Ça, c'est une peur qui a été très forte au début. Et puis, comme ça s'est passé tellement mal, et comme on peut tous regarder chaque jour à la télévision pendant des heures le Royaume-Uni se déchirer, cette envie de quitter l'Union européenne, elle a plutôt diminué. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes qui sont faites au niveau de l'Union européenne, l'adhésion à l'Union européenne des citoyens a plutôt tendance à augmenter. Mais en même temps, même si on peut critiquer la manière dont la campagne a été faite et le fait que les Anglais n'ont pas forcément eu toutes les clés en main, les questions qui se posaient, elles se posent dans toute l'Union européenne. Et en ça, le Brexit est une leçon que les dirigeants européens doivent entendre et ont en partie entendu. Par exemple, si on reprend cette histoire de la migration intra-Union européenne, on a eu une autre forme de réponse qui a été, en France, on s'est battu pour avoir la directive travailleurs détachés, c'est-à-dire que pour que ces gens, s'ils viennent travailler en France, soient payés au même salaire que les Français, parce que c'était aussi une inquiétude qui grandissait en France. Les questions sur la technocratie, la bureaucratie bruxelloise, on se les pose aussi dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, quelque part, le Brexit, ça a été un gros signal d'alarme qui s'est allumé. Et c'est vrai que depuis, on voit comment les dirigeants européens essayent de réfléchir à comment je peux montrer à mes citoyens qu'on est mieux dedans que dehors. Ce qui explique aussi parfois que quelqu'un comme Emmanuel Macron soit particulièrement dur à l'égard des Britanniques, parce que lui, ça fait partie de son projet de politique de montrer que l'Europe est une plus-value. Il dit toujours « notre Europe ». Et donc aujourd'hui, cette question de « à quoi sert l'Union européenne pour nous, ceux qui vivons dedans », elle a été posée de façon très existentielle par le Brexit.
Hugo Travers.
Ce que montre le cas de l'Écosse, c'est un exemple parmi tant d'autres qui montre que le Royaume-Uni n'est en fait pas du tout uni sur cette question du Brexit, et qu'on a en fait, selon les tranches d'âge, typiquement des différences. On a parlé du fait que les jeunes, jamais seulement les jeunes avaient voté, eh bien il n'y aurait pas eu de Brexit. Alors ça ne prend pas en compte l'abstention, donc c'est quand même un chiffre à nuancer, mais c'est un élément qu'on peut souligner. On peut souligner le cas de l'Écosse, on peut souligner le fait qu'en Irlande du Nord, on a surtout voté pour rester au sein de l'Union européenne. Donc ça montre en fait qu'il y a plein d'avis divergents en fait en fonction de l'âge, en fonction du territoire, et c'est voilà, y a, ça pas été une position unifiée de une immense majorité en bloc qui a voté pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Et surtout, ce qui est vraiment important à dire, je pense, c'est que en fait, les Anglais, ils ont voté, ou les Britanniques, ils ont voté pour un départ, mais ils n'ont pas voté pour une destination. C'est-à-dire, quelle relation avec l'Union européenne voulait-il après ? Et en fait, il y avait plein la réponse. Il y a beaucoup de réponses différentes à cette question. Il y en a qui veulent une relation vraiment très très distante, hein, ou juste c'est juste un simple accord de libre-échange. Il y en a qui veulent rester en contact vraiment très proche avec l'Union européenne. Et c'est en partie à cause de ça, cette impossibilité de définir le projet Brexit et l'idée que c'est en fin de compte c'est quelque chose de très très compliqué. C'est Pascal Lamy en politique français qui l'a dit, un ancien commissaire, le Brexit ça va être comme sortir les œufs d'une omelette. Et il a eu complètement raison. Ça, on parle de 45 ans d'intégration commerciale, politique, juridique, je veux dire, défaire tout ça du jour au lendemain, ce n'est pas possible.
La métaphore de l'omelette, je ne l'avais pas celle-là et je la garde. Merci beaucoup John Henley, correspondant Europe du Guardian, le fameux quotidien britannique qui se porte bien, le Guardian. Hein.
Très bien.
Évidemment, il y a beaucoup de questions en ce moment. Au revoir Isabelle Horry depuis Bruxelles ce soir.
Au revoir.
Au revoir Isabelle.
Certainement, on ne sait plus comment, par quel bout prendre cette question du Brexit. Merci Isabelle. Et Hugo Travers, youtubeur, sa chaîne Hugo Décrypte, je ne donne pas souvent le détail aujourd'hui, allez voir cette vidéo postée ce matin, je crois,
ce matin, ouais.
Sur le Brexit, la vidéo à voir si vous ne comprenez rien. Des millions d'Européens qui pourraient voir cette vidéo, peut-être quelques millions de Britanniques aussi. 19h55. Émilie Mazoyer, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va ?
Ça va super bien. Spéciale dédicace aux pages musique du Guardian qui sont exceptionnelles.
Eh ben voilà, Merci. Vous n'êtes pas venu pour rien.
C'est vrai.
Bah,
c'est
là
vrai.
Pour le coup, c'est vrai qu'Isabelle Horry me disait la dernière fois que nous avons eu un débat sur le Brexit, on va perdre les trois quarts du sens de l'humour européen. On perd aussi un peu de la pop culture quand même.
Hein. Ouais, ouais, ouais. Émilie, pas mal.
Sans
pas
les
mal.
Anglais, comment feriez-vous deux heures d'antenne ?
Ceci dit, ce soir, c'est une Française que les Anglais et les Américains aimeraient bien nous shipper, mais elle est de chez nous, c'est Christine and the Queens. Son deuxième album, Chris, et l'immense tournée internationale de festival qui se prépare pour elle pour cet été. Elle va venir nous parler de tout ça tout à l'heure.
Merci beaucoup. Belle soirée en musique avec Christine and the Queens. Chris, on dit maintenant, je crois, Émilie Mazoyer jusqu'à 22h. Je vous laisse la charge de nommer cette artiste française majeure.
Ombline. Cri-cri, moi je l'appelle Cri-cri, Cri-cri
on
d'amour.
On va l'appeler Cri-cri.
Je l'adore.
À demain, Ombline.
À demain, 17h. On va vous appeler Mathieu Béliard. Bon, comme ça, c'est simple.
Mettez-vous à l'aise.
À tout de suite avec Isabelle Millet pour l'information sur Europe 1. Europe 1.